micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Le second tour de la présidentielle au Niger, en proie aux violences djihadistes, a été endeuillé dimanche par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine. Abdourahmane Dia et notre correspondant sur place, Abdourazak Idrissa, nous en parleront dans quelques instants. Au Nigeria voisin, des djihadistes ont envahi une base militaire clé dans le nord-est du pays. Une attaque qui a entraîné la fuite de nombreux habitants, ont indiqué dimanche à l'AFP des sources militaires et des habitants. Tard vendredi, des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, à bord de plusieurs camions munis de mitrailleuses, ont attaqué Dikwa dans l'État de Borno, où l'armée nigériane possède l'un de ses super camps de base militaire. Ce n'est pas la première attaque de ce type. Nigeria toujours, 7 personnes qui se trouvaient à bord d'un avion militaire ont été tuées dimanche dans le crash de leur appareil près de la capitale Abuja, a annoncé un porte-parole de l'armée de l'air. Selon lui, l'avion devait mener une mission de surveillance au-dessus de l'État du Niger et ses environs dans le cadre des efforts pour obtenir la libération des élèves et personnels kidnappé par des hommes armés dans un pensionnat. L'arrivée en Guinée de plus de 11 000 doses de vaccins annoncées par l'OMS contre la fièvre hémorragique Ebola, initialement prévue dimanche, a été reportée à ce lundi à cause de brouillard à Conakry ayant empêché l'avion d'atterrir, a déclaré un responsable de la santé du pays. Nous préférons prendre plus de sécurité et reporter le lancement de la vaccination pour mardi à Gueké, près de Zérékoré, et à Conakry, a dit le patron de l'agence sanitaire guinéenne, le docteur Sakoba Keïta. C'est dans la région du sud-est, voisine de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire, qu'Ebola a récemment fait 5 morts. Première résurgence en Afrique de l'Ouest depuis l'épidémie de 2013-2016 qui avait causé plus de 11 300 décès, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 8500 doses supplémentaires vont être acheminées des États-Unis. Washington a averti mardi que, malgré la pandémie de COVID-19, le monde ne pouvait se permettre de détourner le regard après l'apparition de cas d'Ebola en Guinée, mais aussi en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec Bagassi Kora et aussi Abdourahmane Dia. En Libye, le puissant ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, est sorti sain et chauffe dimanche d'une tentative d'assassinat près de Tripoli lorsqu'un véhicule blindé a ouvert le feu sur son convoi. On craint une reprise des violences en plein effort pour une transition pacifique politique dans ce pays miné par les luttes d'influence et le poids des milices. Les États-Unis s'apprêtent à franchir la sombre barre des 500 000 morts du COVID-19 au moment où nombre d'indicateurs, au premier rang desquels le rythme des vaccinations, offrent des lueurs d'espoir. C'est terrible, c'est horrible, a réagi dimanche l'immunologue Anthony Fauci, conseiller du président Joe Biden. Nous n'avons rien connu de tel depuis plus de 100 ans, depuis la pandémie de 1918, a-t-il rappelé sur CNN. C'est quelque chose qui restera dans l'histoire, selon l'université Johns Hopkins. Le décompte s'est levé à 498 786 morts lundi à 0h, temps universel. La pandémie a fait dans le monde depuis fin décembre 2019 plus de 2,46 millions de morts pour plus de 111 millions de cas selon un bilan de l'AFP dimanche. L'autorité américaine de régulation de l'aviation a ordonné dimanche des inspections supplémentaires sur certains avions commerciaux de type Boeing 777 au lendemain d'une panne de moteur sur un de ses engins dans le Colorado. La suite de nos informations. Au Niger, le second tour de la présidentielle a été donc endeuillé dimanche par la mort de 7 agents électoraux dont le véhicule a sauté sur une mine. 7,4 millions d'électeurs étaient appelés à choisir entre le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'opposant et ancien président, Mahamat Ousmane. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le scrutin s'est tenu en dépit de l'insécurité provoquée par les djihadistes dans le pays. Dans la matinée de dimanche, un véhicule transportant des membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a sauté sur une mine dans la région de Tillaberi, proche du Mali, selon le gouverneur Tidiane Ibrahim Katiela. En plus des morts, il y a eu 3 blessés. Le drame est survenu à Waraou, une localité située sur la commune de Dargol, dans la région de Tillaberi, à une centaine de kilomètres de Niamey, dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Début janvier, après le premier tour de la présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans l'attaque de 2 villages dans la même région de Tillaberi. Un des pires massacres de civils dans ce pays du Sahel, régulièrement visé par des groupes djihadistes. La question de l'insécurité est au cœur des préoccupations des électeurs. Idrissa Gado, un étudiant de 29 ans, estime que le prochain président doit agir contre les rebelles. C'est le grand souci du Niger dont il faut s'occuper. Nous, on veut le calme et la sécurité, a-t-il lancé après avoir voté à Niamey. Ce sera la première fois que 2 présidents élus se succèdent dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État depuis son indépendance en 1960.
En République démocratique du Congo, les autorités font état de 4 personnes décédées de la maladie à virus Ebola depuis sa résurgence dans l'est du pays. Selon elles, certains s'opposent aux mesures sanitaires, faisant redouter une importante propagation de l'épidémie. Des précisions de Bagassi Koura.
Selon Dr Eugène Sialita, ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, la prise en charge des malades continue au niveau des CTE, les centres de traitement d'Ebola. Certaines familles refusent catégoriquement que leurs habitations soient désinfectées, tout comme des enterrements dignes et sécurisés, a regretté le Dr Sialita, ajoutant que les gens n'ont pas encore compris qu'Ebola vient à nouveau de réapparaître. Comme par le passé, une bonne partie de la population de cette région refuse de croire à l'existence de la maladie d'Ebola et s'oppose aux changements imposés pour éviter la contamination, comme notamment éviter de toucher les malades ou ne pas laver les cadavres des malades d'Ebola. La 10e épidémie déclarée le 1er août 2018 dans cette région n'a été éradiquée que le 25 juin 2020. À cause de l'insécurité causée par les activités des groupes armés et la résistance des populations aux mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la maladie, avec plus de 2200 morts enregistrées, elle est considérée comme la plus grave de l'histoire d'Ebola en RDC depuis son apparition en 1976. L'épidémie d'Ebola a ressurgi également en Guinée, où elle a déjà causé 5 décès.
Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé dimanche soir, à son retour de Téhéran, avoir trouvé avec l'Iran une solution temporaire de 3 mois pour maintenir une surveillance satisfaisante. Michel Joseph fait le point.
Raphaël Grossi a toutefois indiqué que l'accès sera réduit. Ne nous voilons pas la face, mais nous serons en mesure de maintenir le degré nécessaire de surveillance et de vérification des sites nucléaires iraniens. Cela sauve la situation dans l'immédiat, a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, l'Iran s'était félicité des discussions avec le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique à l'approche de la mise en application d'une loi qui limiterait les inspections des activités nucléaires en cas de maintien des sanctions américaines. Téhéran parle de discussions fructueuses. L'échéance fixée par la loi iranienne devait entrer en vigueur ce mardi, à moins d'une annonce par les États-Unis d'une levée de leurs sanctions. Ces sanctions ont été rétablies en 2018 par l'ex-président Donald Trump, qui a retiré unilatéralement son pays de l'accord international de 2015, censé encadrer le programme nucléaire iranien. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé dimanche soir qu'il existait une fenêtre d'opportunité pour la levée des sanctions américaines contre l'Iran lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rouhani. La nouvelle administration démocrate de Joe Biden s'est déclarée prête à réengager les États-Unis dans l'accord, mais Washington dit attendre des actions concrètes de Téhéran.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À présent, notre page sport avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Coupe de la CAF, tour de cadrage avec les matchs retour.
Oui, la dernière étape avant la phase du groupe et on connaît la plupart des qualifiés. Trois ont décroché leur ticket après la séance des tirs au but. C'est le cas du Raja de Casablanca, vainqueur de la compétition en 2018 et tombeur des Tunisiens de Monastir dans la douleur donc. Même cas pour Enimba lors de son duel 100% nigérien avec Rivers United et des Libyens d'Alali Benghazi sur la pelouse des Congolais de Darin Club Motiba Pembe. Match à suspense également entre la JS Kabylie et le Stade Malien, finalement remporté 1-0 par les Algériens après leur défaite de 2-1 du match aller. Autre renversement de situation entre le Salitas de Ouagadougou et Boingidi Sport du Gabon. Les Burkinabés battus 1-0 à l'aller à Libreville se sont imposés 3-1 à domicile.
Qualification également pour les Sénégalais du Diaraf.
Ce sera une première pour le club dakarois, le plus titré du Sénégal, qui n'a d'ailleurs pas tremblé face à Platinum. Succès 1-0 au Zimbabwe, même score à Dakar pour Diaraf. Qualification sans difficulté aussi pour les Camerounais de Coton Sport de Garoua, tout comme les Égyptiens de Pyramide. Ça passe aussi pour les Tunisiens de Sfax, les Algériens de l'Entente du Sétif, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et des Zambiens de Nkana. Le tirage au sort de la phase du groupe aura lieu ce lundi au Caire en Égypte.
La CAN des moins de 20 ans en Mauritanie avec la dernière de la phase de poule.
Tout à fait. Et le groupe C livrera ses qualifiés aujourd'hui. Bien parti pour assurer leur qualification. Le Ghana et le Maroc qui partagent la première place du groupe vont affronter la Gambie et la Tanzanie. Hier, dans le groupe B, le Burkina Faso vainqueur 1-0 de la Namibie a composté son billet pour les quarts de finale, tout comme la Centrafrique victorieuse de la Tunisie score 2-1. Première participation et qualification pour les quarts de finale pour les Centrafricains. Les deux équipes rejoignent ainsi le Cameroun et l'Ouganda qualifiés dans le groupe A.
Élisée en tournée en Afrique, Gianni Infantino, qui pourrait assister à la finale de cette CAN des moins de 20 ans, était à Kinshasa en République démocratique du Congo.
Exactement, Idrissa. Le président de la FIFA a rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine. Les deux hommes ont signé un mémorandum d'entente pour l'organisation d'un tournoi de football interscolaire sur le continent. On retrouve Valdo Simbo Yamba-Yamba pour plus de précisions.
La RDC va servir des pilotes pour le lancement de ce tournoi interscolaire convenu entre la Fédération Internationale de Football Association et l'Union Africaine. Il y a eu des échanges entre le président de ces deux institutions, Félix Tshisekedi de l'Union Africaine, président de la RDC, et Infantino, président de la FIFA.
On a lancé aujourd'hui un projet d'une compétition, un championnat scolaire ici, mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique à partir évidemment d'ici, parce que l'éducation, les écoles et le football, ça doit être en symbiose.
À travers cette démarche, la Fédération internationale de football association et l'Union africaine que dirige le président de la RDC poursuivent des objectifs bien clairs.
L'objectif, c'est de donner de l'espoir à tous les enfants en Afrique, aux garçons et aux filles. Et le football peut aider à donner cet espoir. On va organiser ensemble des compétitions, on va ensemble participer à la formation, à l'éducation de nos jeunes à travers le football, parce que le football est plus qu'un sport, c'est une école de vie.
Ainsi donc, la FIFA vise entre autres à inculquer aux filles des garçons élèves du continent africain, des valeurs qui véhiculent le football, notamment les fair play. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Gianni Infantino s'est ensuite rendu en Afrique du Sud où il a rencontré le candidat présidentiel de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi que le président de la République, Cyril Ramaphosa. Le Suisse est également attendu au Maroc.
Basketball à présent, c'est la fin des qualifications pour l'Afrobasket qui aura lieu au Rwanda.
C'est la dernière fenêtre des éliminatoires qui s'est déroulée à Monastir et à Yaoundé. Toutes les grosses nations du basketball du continent seront au rendez-vous. À commencer par le pays hôte, le Rwanda, mais aussi la Tunisie tenante du titre, le Sénégal, l'Angola, la Tunisie ou encore le Nigeria. Pour les autres qualifiés dans le groupe A, la Centrafrique a validé sa qualification en venant à bout de Madagascar 79-79. 72, tout comme la RDC malgré sa défaite devant la Tunisie. Au niveau du groupe B, le Kenya s'est qualifié après avoir fini à la troisième place. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont qualifiés dans la poule C. Enfin, dans le groupe E, l'Égypte s'est qualifiée en battant le Cap Vert 94-65.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Plus de 7 millions d'électeurs nigériens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur futur président qui succédera à Issoufou Mahamadou, arrivé au terme de ses deux mandats consécutifs. Les deux candidats en lice pour ce second tour sont Bazoum Mohamed, le dauphin du président sortant, et l'ancien président Mahamane Ousmane. Un scrutin qui a toutefois été endeuillé par la mort de 7 agents électoraux dans la région de Tillabéri. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le fait majeur du scrutin de ce dimanche 21 février 2021 reste la mort par accident de 7 agents de la Commission électorale nationale indépendante dans le département de Gauteuil, région de Tillabéri. Le véhicule qui les transportait dans leur bureau de vote a sauté sur une mine. Dans la région de Tillabéri, toujours, des hommes armés ont perturbé et ou arrêté les opérations de vote dans certaines localités situées sur la frontière avec le Mali. Ces incidents n'ont tout de même pas fortement affecté le déroulement du scrutin sur l'ensemble du pays. En majorité, les bureaux de vote ont ouvert à temps. Les électeurs sont sortis exercer leur devoir citoyen dans le calme. À Niamey, c'est le président sortant Issoufou Mahamadou qui a donné le coup d'envoi au niveau du bureau de vote 00. Un grand jour pour lui.
Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays.
Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a également voté à Niamey.
Je viens de voter après que je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays, que je visitais plusieurs villages, que j'ai eu beaucoup de contacts. Et je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline, et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. J'ai beaucoup de raisons de croire qu'elle est en effet de mon côté. Et donc, par conséquent, j'aborde l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme.
Son challenger, Mahamane Ousmane, lui, était à Zinder, sa ville natale.
Et mon sentiment, c'est que la population n'est plus disposée à tolérer des élections truquées. Donc, je saisis cette occasion que vous m'offrez pour interpeller tous les responsables à tous les niveaux à faire en sorte que chacun apporte sa pierre pour que ces élections-là soient des élections qui soient propres, qui soient correctes et que les citoyens se retrouvent dans les suffrages qu'ils ont exprimés.
Le dépouillement a aussitôt débuté après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats seront au fur et à mesure transmis à la Commission électorale nationale indépendante qui procédera à partir de ce lundi matin à leur diffusion en direct sur les ondes des médias d'État. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, c'est aujourd'hui qu'aura lieu le débat sur la politique générale du gouvernement de transition au sein de l'organe législatif 48 heures après sa publication. En attendant, certains Maliens estiment que c'est un programme trop ambitieux. Les explications de Lamissa Sangaré.
Le vendredi, devant le Conseil national de transition réuni au Centre international de conférences de Bamako, le Premier ministre Mokhtar Wane a exposé son programme qui s'articule autour de 6 axes.
La mise en œuvre du plan d'action du gouvernement contribuera aux réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie, c'est-à-dire à renforcer la stabilité des institutions démocratiques et républicaines et à améliorer la gouvernance.
Cheikh Oumar Diallo est institutaire de son État.
Les réformes annoncées par le Premier ministre sont la bienvenue, compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, qui peut apporter un profond changement au niveau de ce système éducatif, du premier cycle jusqu'au niveau du terminal. On voit que nos enfants ne savent pas lire. Qu'ils essaient de voir le secteur privé au sein de l'éducation, voir comment est-ce qu'ils forment nos enfants. Pour mon souhait, je veux en toi qu'ils interviennent maintenant dans ce domaine profondément.
En matière de sécurité, le gouvernement entend faire de nouveaux recrutements au sein des FAMA, revoir certaines dispositions de l'accord, dissoudre les mouvements d'autodéfense, mais surtout tendre la main à certains groupes armés formés des nationaux. Ce dernier point n'est pas du tout du goût de Daouda Kanin, maire de la commune rurale de Diogar.
Moi, quand même, c'est pas mon avis. Pas question de négocier. La guerre, quand même, si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. La zone est minée. Il est en train de massacrer les soldats maliens. C'est nos fils. C'est pas question à négocier. Il faut qu'on prenne notre décision.
Moriba Sissoko, politologue, pense que c'est un programme à ambition démesurée.
C'est très ambitieux pour le reste de la transition. Une transition, déjà, c'est des priorités. Ça ne doit pas être encombré par des points à l'ambition, vraiment, un mandat. Il fallait peut-être un peu revoir un peu ce programme, que ça soit mesuré en deux ou trois points prioritaires.
Outre le volume des ambitions, Moriba est intrigué aussi par la question des financements de ce programme, en un temps record.
Même pour les élections déjà, les fonds qui seront alloués à l'élection, comment faire pour recouvrir tout ça là, en un laps de temps, ça va pas être facile.
Les débats s'annoncent donc houlés ce matin au niveau du CNT. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Congo-Brazzaville, des candidats de l'opposition accusent le président Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession à la prochaine élection, d'être déjà en campagne en violation de la loi. En effet, le président congolais organise des visites de chantiers et des inaugurations d'ouvrages en présence de ses partisans. Hier dimanche, il a lancé les travaux de construction d'une nouvelle raffinerie à Pointe-Noire. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant.
Ces derniers temps, à chacun de ses déplacements de travail, Denis Sassou Nguesso traîne des foules de militants. Ils arborent des banderoles et pancartes électoralistes. C'est le cas hier dimanche, lors du lancement des travaux de construction d'une nouvelle raffinerie, ici à Pointe-Noire. Pour l'opposant Guy-Brice Parfait-Kolela, lui aussi candidat, le président de la République est déjà en campagne, et ce, avec les moyens de l'État. Son directeur de campagne, Rodrigue Mayanda.
Il ne faut pas être naïf, c'est bien une campagne déguisée qui se fait là sur fond des deniers publics. C'est pas normal. On nous parle du contexte du Covid, mais on voit qu'il rassemble des milliers de personnes. Ça ne nous fait pas peur. On voit des rassemblements de plus de 200 personnes organisés par le PCT, mais personne ne parle. Mais quand c'est l'UDHUK, ben voilà, en prétexte, il y a un don de 100 millions par-ci, un don de 100 millions par-là. C'est quoi si c'est pas de la campagne?
Le porte-parole du PCT, parti présidentiel Parfait Loki, rétorque que le chef de l'État, bien que candidat, mais est dans ses missions quotidiennes.
Il assume ses fonctions de président de la République conformément à l'article 74, alinéa 2 de la Constitution de la République. Eh bien, le président n'est pas en campagne électorale, au contraire, il est en visite de travail et ce n'est que normal. Les foules que vous voyez autour du président Denis Sassou Nguesso sont simplement l'expression de l'adhésion populaire à leur leader. Ceux qui nous accusent de mener la campagne avant l'heure, bien, et ils ont simplement tort de jouer aux spectateurs au moment où il est question d'affûter les armes pour aller à une élection majeure, qui est l'élection présidentielle.
Avec une lecture avertie, le politologue Constant Ibarapeya estime que le président Sassou Nguesso est certes dans ses missions, mais profite de la faiblesse de la loi électorale.
La loi ne limite pas à partir de quel moment cessent les prérogatives d'un chef d'État qui s'est déjà déclaré candidat à une élection présidentielle. Donc, de ce point de vue, le candidat Denis Sassou Nguesso est bel et bien dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'État. Attention, l'opposition n'a aucune légalité institutionnelle en ce moment de poser de tels actes, sous peine de tomber sous le coup de la loi.
Globalement, les candidats de l'opposition ne sont pas encore sortis des bois. Ils devraient entrer en campagne dès le 6 mars prochain. De Pointe-Noire, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Les États-Unis veulent s'engager au niveau global dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans son discours prononcé vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité, le président Joe Biden a réitéré l'engagement de son administration à contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars à l'initiative globale COVAX de vaccination contre le COVID-19. Mais la porte-parole en français du département d'État, Marissa Di Scott Torres, déclare que l'administration Biden s'engage aussi dans la lutte contre des maladies qui sévissent plus en Afrique, notamment Ebola et le paludisme. Interrogée par Abdurrahman Dia, Mme Scott Torres a également parlé des relations Chine, Afrique et États-Unis. Elle commence par les promesses du président Biden sur le climat.
Oui, l'administration de Biden a fait le changement climatique une priorité de son administration. Donc, il a aussi nommé un envoyé spécial, John Kerry, ancien secrétaire d'État, pour le climat pour les États-Unis. Le président américain va accueillir quelques dirigeants pour parler sur le changement du climat le 22 avril, la journée de la Terre.
Concernant la poussée de la Chine en Afrique, la poussée économique notamment, le président Biden appelle généralement à investir davantage pour accroître la compétitivité collective. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre concernant notamment la Chine?
Donc avec la Chine et les États-Unis, ce n'est pas vraiment le grand concurrence, comme tout le monde dit, parce que nous offrons quelque chose qui est différent, transparence. Nous offrons l'opportunité d'avoir un vrai engagement avec les États-Unis, surtout avec les entreprises américaines. Donc ça, c'est le plus important pour nous, pour avoir une relation gagnant-gagnant avec l'Afrique surtout. Mais on a beaucoup d'initiatives qui est partie de notre engagement avec l'Afrique et sont des priorités, notamment le Prosper Africa, une initiative pour appeler tous les agents américains, 17 bureaux différents du gouvernement américain qui travaillent ensemble pour aider d'avoir des transactions entre les États-Unis et entre l'Afrique.
Le président Biden s'est aussi engagé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 au niveau global. Quelles sont les grandes lignes de cet engagement américain?
Donc, vous avez toute la raison, parce que le président Biden veut être un leader dans la lutte contre la pandémie, pas seulement le COVID-19, mais aussi Ebola, le paludisme, etc. Et les États-Unis ont été leaders dans la lutte contre toutes les maladies en Afrique il y a plus de 20 ans. Mais notamment, aux luttes contre la COVID-19, le gouvernement américain a garanti 2 milliards de dollars qui a été garanti de notre congrès dans décembre pour aider dans la lutte, notamment la compagnie Gavi qui va faciliter la distribution de vaccins et qui est partie de l'appel global de COVAX.
Marissa Di Scott Torres, porte-parole en français du département d'État américain, jointe à Johannesburg.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace. Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Edrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.